France Musique. Musique et moi.
Pierre-Michel Menger.
Priscille Lafitte. France Musique.
Curieuse activité solitaire que celle d'écrire. Vous passez par des moments de découragement quand vous rédigez les premières pages d'un roman. Vous avez, chaque jour, l'impression de faire fausse route. Et alors, la tentation est grande de revenir en arrière et de vous engager dans un autre chemin. Il ne faut pas succomber à cette tentation, mais suivre la même route. C'est un peu comme d'être au volant d'une voiture la nuit, en hiver, et rouler sur le verglas, sans aucune visibilité. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous devez continuer d'avancer en vous disant que la route finira bien par être plus stable et que le brouillard se dissipera. Sur le point d'achever un livre, il vous semble que celui-ci commence à se détacher de vous et qu'il respire déjà l'air de la liberté comme les enfants dans la classe la veille des grandes vacances. Ils sont distraits et bruyants et n'écoutent plus leurs professeurs. Je dirais même qu'au moment où vous écrivez les derniers paragraphes, le livre vous témoigne une certaine hostilité dans sa hâte de se libérer de vous. Et il vous quitte, à peine avez-vous tracé le dernier mot. C'est fini, il n'a plus besoin de vous, il vous a déjà oublié. Ce sont les lecteurs désormais qui le révéleront à lui-même. Vous éprouvez à ce moment-là un grand vide et le sentiment d'avoir été abandonné. Et aussi une sorte d'insatisfaction à cause de ce lien entre le livre et vous qui a été tranché trop vite. Cette insatisfaction et ce sentiment de quelque chose d'inaccompli vous poussent à écrire le livre suivant pour rétablir l'équilibre sans que vous y parveniez jamais. À mesure que les années passent, les livres se succèdent et les lecteurs parleront d'une œuvre. Mais vous aurez le sentiment qu'il ne s'agissait que d'une longue fuite en avant.
Gustav Mahler rend visibles les coutures de la création, peut-être, dans cette troisième symphonie. Ses allers-retours, son mouvement circulaire d'avancée, de retour à soi. Et on peut peut-être y percevoir ce mélange de certitude et de doute permanent qu'exprime Patrick Modiano dans son discours pour la réception du prix Nobel de littérature en 2014 que vous avez choisi pour introduire cette émission. Pierre-Michel Menger, merci d'être avec nous ce matin.
Merci de m'accueillir.
Le créateur et son interprète, ici Gustav Mahler, Leonard Bernstein, l'Orchestre Philharmonique de New York. Voilà un duo de personnalités qui vous intéresse en tant que sociologue. Pierre-Michel Menger, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, professeur au Collège de France, vous avez consacré de nombreux travaux à la condition de travail et de création de l'artiste, à sa place dans la cité, place que l'on aime croire à part, et que vous ramenez au cœur de sa réalité, à la façon dont l'artiste est rémunéré, symboliquement et concrètement, reconnu par ses pairs et par la société. Pierre-Michel Menger, votre objet d'étude est aussi un objet de fascination, si je comprends bien.
Oh oui, beaucoup, oui. Oui.
Vous mettez le monde musical à bonne distance dans vos travaux de sociologie, évidemment. Vos recherches ont un caractère scientifique, d'ailleurs très appréciable, d'autant plus rare dans un milieu où le discours dominant est celui de l'éloge, parfois même de la flatterie. Mais ce matin, nous allons nous permettre de laisser libre cours à votre amour pour la musique. Pour commencer à faire connaissance, pourriez-vous nous dire en quoi vous faites vôtre les mots de Patrick Modiano ?
C'est une magnifique description du processus créateur. Il faut se diriger vers quelque chose dont on ne dessine pas exactement les contours, le but, et ce contour doit rester incertain pour que la stimulation soit constante dans l'effort de travail. Et cet effort de travail, il est fait de 1000 bifurcations. Vous choisissez une route, vous n'êtes pas sûr de sa qualité, de sa perspective, vous pouvez éventuellement changer, et puis vous tâtonnez littéralement. Il parle du brouillard, de la nuit, etc. C'est exactement ça, vraiment, qui est décrit beaucoup, mais lui, dans des mots extraordinaires. C'est un concentré phénoménologique du processus créateur tel qu'il le décrit. Et il le décrit aussi à la fin comme quelque chose comme un arrachement. L'œuvre va vivre sans lui parce qu'on ne peut plus y toucher. Ça y est, on aurait aimé. Et les compositeurs souvent retouchent les œuvres après leur première création, leur première audition. Le romancier peut éventuellement dans une deuxième édition, mais c'est très très rare. La musique, c'est vraiment différent. C'est un art vivant de performance, comme on dit. Et donc, on peut y retoucher. Ça, c'est un vaste sujet de la musicologie et du comportement des créateurs. Et le point, enfin, c'est l'arrachement. Et ça, lui, comme Roland Barthes, dans la préparation du roman, qui est le dernier cours qu'il a donné au Collège de France, c'est un bijou absolu. C'est magnifique, vraiment. Et il le ressent parce que lui-même, quand on écrit, quand on est même scientifique, on a aussi quelque chose comme ça. Quand on écrit un long travail, on est pris par ce genre de problème aussi. Pas avec l'intensité d'un Modiano, parce qu'on a des guides en fonction de notre recherche, mais c'est quand même quelque chose qui y ressemble aussi.
On peut penser aussi que Gustav Mahler était pris par ces mêmes questionnements.
Ah, certainement, évidemment, tous les compositeurs le sont. Lui était, comme beaucoup de compositeurs, un acharné du travail dans des périodes très limitées. Ses œuvres sont composées l'été, le reste du temps, il est à l'Opéra de Vienne, et c'est un chef d'orchestre, un compositeur, comme Bernstein le sera, comme plus tard on va parler de Boulez, c'est la même chose. Ce sont des associations de rôles assez rares et très difficiles à associer à ce point-là, parce que les deux sont dévorateurs de temps. Et donc, il devait préserver ce temps, il devait donner beaucoup d'intensité. Et les œuvres étaient écrites très progressivement. Donc vous vous rendez compte, un été ne suffit pas et il faut garder le fil. Et il y a un mécanisme très puissant pour ça. C'est ce qu'une psychologue a appelé, qui s'appelait Zeigarnik, c'est tant que vous n'avez pas fini quelque chose, c'est présent à la mémoire. Et vous pouvez y revenir et recommencer à y travailler. Et quand c'est terminé, vous le stockez, c'est fini, vous oubliez tout ce qui s'est passé pendant le processus de création. Mmh. Et vous passez à la suite. Et là, ce que nous dit Modiano, c'est « je dois l'achever » et en même temps, c'est un arrangement parce que j'avais peut-être beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été développées.
Alors, vous l'avez compris, ce matin, nous allons parler de processus d'écriture, de composition, avec la compagnie de Monteverdi et de Pierre Boulez, en passant par Richard Wagner. C'est Wagner et son art total, Gesamtkunstwerk, qui se manifeste ici dans ce prélude de l'Or du Rhin. Herbert von Karajan dirige l'Orchestre philharmonique de Berlin. Wagner est une figure peut-être un peu écrasante, même du compositeur qui cherche à tout redéfinir, à créer un univers en soi. Comment avez-vous plongé, vous, dans cet Or du Rhin, Pierre-Michel Menger?
Plongé dans la création du monde. mais ça, c'est un souvenir très personnel. J'écoutais ce qui était l'ancêtre de France Musique en 1967. Et Jean-Marie Grenier parlait des coffrets en offre spéciale de l'automne, ça existait. Et il citait trois coffrets que je suis allé acheter en Allemagne, à vélo, à Sarrebruck, parce qu'il n'y avait rien de tel à Forbach où j'étais né, où je vivais, une vie en France très heureuse, mais bon, dans une ville dépourvue de musique. Et j'ai acheté ces trois coffrets, c'était les Noces de Figaro de Mozart, les cinq concertos de Beethoven et puis l'Or du Rhin. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai posé le disque sur une platine. Et j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait ou en quelque sorte se créait devant moi. Et c'était une sorte d'incendie dans ma tête, littéralement. Vraiment, le monde a basculé. Et ce début, je me souviens, j'en frissonne encore, c'était tout d'un coup entrer dans un monde sonore. Et rien que l'orchestration extraordinaire, c'était ça. C'était vraiment ça. Et puis, je suis allé à Bayreuth. On m'a offert ça une année. Une amie nous a procuré des places pour la générale. Et on a fait le voyage avec ma compagne. Et ça reste souvenir extraordinaire, c'était la mise en scène de Castorf, qui était assez spéciale, je dois dire. Il y avait des moments où je fermais les yeux pour me concentrer sur la musique parce qu'il y avait trop d'informations sur la scène. La musique de Wagner est une charrie, une masse d'informations. Il l'a structurée comme ça. Les leitmotivs, c'est extraordinaire. C'est une manière de transformer l'œuvre en une gigantesque narration, mais d'une complexité folle, et de donner des fils conducteurs à l'auditeur pour que chaque fois il s'y retrouve, les thèmes, etc., les personnages, tout ça. C'était génial. Et il y avait sur scène autant d'informations que dans la musique. Alors, à un moment, on était totalement submergé. Mais ça reste un grand sujet. Vraiment, et Wagner, ensuite, je me suis intéressé d'une autre manière quand j'ai traité de l'antisémitisme de Wagner, qui était vraiment un problème terrible. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on peut découpler l'homme de l'œuvre. Et il n'y a pas de bonne réponse, d'une certaine manière. Et la tétralogie est peuplée d'allusions plus ou moins explicites, antisémites. Tristan, non, mais la tétralogie, tout de même. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'admirer cette œuvre. Pour moi, la tétralogie est une œuvre phare, culte. Et je l'ai écoutée en boucle plusieurs fois. Et l'été, quand j'étais jeune normalien, on diffusait tout Bayreuth sur France Musique, ce qui était alors autre chose que France Musique, mais c'était déjà France Musique si on veut. Et je fermais les rideaux, je fermais les volets et j'entrais en quelque sorte dans un univers sonore pendant des heures et des heures. Et c'était extraordinaire, je dois dire. C'était extrêmement gratifiant.
le quatrième concerto, l'Allegro Moderato. Daniel Barenboim au piano, accompagné du New Philharmonia Orchestra dirigé par Otto Klemperer. C'est un disque, une musique, vous l'avez dit un peu plus tôt, Pierre-Michel Menger, que vous avez découverte dans la même chronologie,
la même expédition
à Saarbrück.
Absolument, c'était un des trois coffrets, oui. Et c'était un coffret magnifique parce que la couverture, c'était le vieux Klemperer qui regardait d'un air à la fois tendre et exigeant le jeune Barenboim qui était le jeune lion. Et ça, c'est la magie des interprètes et du travail en commun. Klemperer était à la fin de sa carrière et Barenboim au début. Et ils s'entendent miraculeusement. Ils font un pas vers l'autre chacun et c'est prodigieux. Ça, c'est mon amour des interprètes, je dois dire, et de cette œuvre qui est assez mystérieuse dans l'œuvre de Beethoven parce que c'est à la fois extrêmement lyrique, mais c'est pas d'un lyrisme à aucun moment sentimental du tout. C'est un lyrisme exigeant, un lyrisme presque métaphysique et en même temps extrêmement chantant, mais c'est quelque chose d'insaisissable et de tellement puissant. Ça, je trouve ça, c'est le concerto qui pour moi est le plus beau de tous les concertos, parce qu'il a une perfection, surtout quand il est très bien joué. Il faut qu'il soit très bien joué.
Oui, c'est une des facettes les plus touchantes finalement de Beethoven, particulièrement ce piano qui démarre seul,
exactement.
Qui pose un point d'interrogation à l'orchestre,
exactement.
Qui s'empare de ce thème.
Qui développe et qui rend la parole au piano et ensuite le dialogue, et puis ensuite ce mouvement lent, très mystérieux où il y a un combat qui se résout et puis entre le piano et l'orchestre. Et le mouvement final, qui est un feu d'artifice, mais très maîtrisé, et c'est magnifique. C'est vraiment une œuvre qui me touche beaucoup, parce que c'est la quintessence de l'intelligence musicale et d'une sensibilité qui ne s'épanche pas, mais qui se conquiert par le travail d'écriture. C'est ça qui me fascine dans cette œuvre.
Alors, ce sont des musiques qui vous touchent, Pierre-Michel Menger, enfant ou adolescent ? Vous avez pensé à faire de votre vie une musique, ou en tant qu'interprète, ou en tant que compositeur, ou en tant que musicologue, ces différentes voix se sont-elles présentées à vous ?
J'aurais aimé, et puis j'ai trouvé une voie détournée pour le faire. J'ai fait une thèse sur la composition musicale contemporaine. C'était une thèse de sociologie où je voulais résoudre un certain nombre d'énigmes. Et en interviewant Maurice Ohana, je me souviens très bien, il me parlait de « mais qu'est-ce que vous aimez dans la musique ?» Et je lui ai parlé très longuement de mon amour de la musique. Il m'a dit « je vous prends en composition si vous voulez. » Et puis, je me suis dit non, c'est impossible à mon âge. C'est un effort trop grand et je n'y arriverai peut-être pas. Je n'ai pas pris ce risque. Mais c'était extraordinairement généreux de sa part. J'ai trouvé ça formidable. Je le regrette, mais je le compense d'une autre manière. J'en ai fait un objet de méditation. Et à la fois, on peut dire, le sociologue va objectiver la condition des artistes, des compositeurs. Moi, je voulais aussi entrer dans l'intimité du travail de la création. C'est ce que j'ai dit à propos de Modiano, c'est à propos de Mahler aussi, comment le compositeur travaille, comment il doit avoir plusieurs activités, les enchaîner les unes aux autres, etc. Et surtout, comment arriver à créer vraiment en faisant un travail persévérant et incertain.
Alors, je dois vous remercier, Pierre-Michel Menger, parce que vous nous permettez d'entendre des versions qui sont peu usitées et de faire entrer dans notre discothèque de Radio France des nouveaux enregistrements de ce concerto pour violon en ré mineur de Jean Sibelius. Ici, Gidon Kremer, qu'on connaît avec Riccardo Muti, avec d'autres. Ici, aux côtés de Gwennady Rochdy-Zvansky, l'Orchestre symphonique de Londres. Pierre-Michel Menger, vous n'avez donc pas eu le loisir de pratiquer un instrument. Vous avez choisi la sociologie et pour autant, je sens qu'il y a un questionnement profond que vous avez vis-à-vis du monde musical et des musiciens. Est-ce que vous pourriez formuler en une question celle qui vous a tenu tout au long de ces années de recherche?
Certainement, d'abord, régler le problème de ma passion propre pour la musique et d'en faire un objet de recherche. Ensuite, de comprendre comment on s'aventure dans une activité qui est aussi profondément incertaine, incertaine à deux titres. D'abord, comment produire une œuvre. Je reviens à la citation d'origine de notre début, mais aussi comment s'aventurer dans un monde où le passé est très très présent avec le répertoire et comment des compositeurs contemporains peuvent se débrouiller pour exister alors que le répertoire cannibalise en quelque sorte l'attention de beaucoup d'auditeurs et le répertoire lui-même est le produit d'une sélection absolument terrible parce que pour quelques centaines ou peut-être milliers d'œuvres qui perdurent, il y en a des centaines de milliers qui ont disparu corps et bien et pareil pour les compositeurs, ils sont très peu nombreux à traverser l'épreuve du temps et donc pour s'aventurer dans ce genre de travail, il faut prendre des risques et il faut être animé par une passion et un goût immodéré de la passion, de l'effort et de la prise de risque. Et voilà, c'est à peu près tout ça qui m'a intrigué beaucoup et la musique était le point d'entrée idéal pour moi dans cette activité. Et puis, il y avait l'autre dimension qui était les interprètes. Les interprètes sont à la fois au service de la création et en même temps cherchent à être eux-mêmes des recréateurs puisqu'ils doivent exister pour offrir leur coefficient de singularité dans la production d'une interprétation et rechercher, etc. Ils sont même en compétition les uns avec les autres pour capter l'attention du public. Et donc, comment trouver le bon assortiment entre une œuvre, un compositeur, un interprète et comment tout ça chemine au fil du temps et comment les interprètes peuvent eux-mêmes se mettre au service de la création sans renoncer à être évidemment les interprètes du passé sur lequel ils se font reconnaître comme interprètes valeureux. Quand vous jouez le concerto de Beethoven, le quatrième, vous pouvez ajouter votre propre griffe sur l'œuvre, en quelque sorte, votre originalité sur l'interprétation. Quand vous jouez une œuvre contemporaine, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas la même information sur tout ce qui pourrait être une œuvre contemporaine et qu'elle n'a pas vécu suffisamment. Donc, ce sont toutes ces questions-là m'intriguent beaucoup et m'ont beaucoup stimulé dans la recherche. J'ai pu les appliquer en d'autres termes à d'autres objets de recherche. Je travaille sur les mathématiques et je me souviens d'un titre d'un article de Jean-Claude Risset, compositeur et physicien, qui disait « Musique, calcul secret ». C'est exactement ça, c'est une forme de calcul, c'est une forme de mathématique, mais c'est aussi une architecture du temps. C'est une mathématique sensible. Lévi-Strauss a écrit là-dessus des pages extraordinaires dans l'ouverture du Cru et le Cui, une mathématique sensible. C'est une communication extrême entre ce qui a la partie la plus intellectuelle de nous-mêmes et la partie la plus sensible de nous-mêmes.
C'est sa définition de la musique.
C'est ça, c'est une manière pour lui d'appréhender la musique et de parler probablement aussi de sa propre passion pour la musique. Et ça me va très bien.
Alors c'est un cas d'école. Ces 12 notations de Pierre Boulez, on l'entendait d'abord dans une version pour piano et à la suite une version dirigée par Pierre Boulez lui-même à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Une même œuvre ou presque, puisque l'œuvre pour piano est la première, je crois, à figurer au catalogue, alors que Pierre Boulez est encore élève d'Olivier Messiaen en 1945. Et puis la version orchestrale est plus tardive. Vous qui avez côtoyé Pierre Boulez, qui avez passé de longues heures avec lui à l'interroger, mais aussi à interroger son entourage et à vous intéresser à l'école qu'il avait créée, malgré lui ou à part lui, c'est une question de la place qu'a occupé Pierre Boulez dans tout le paysage de la création contemporaine de l'après-guerre que vous avez tenté d'approcher et d'analyser. Comment avez-vous d'ailleurs perçu la façon dont les compositeurs pouvaient écrire à la suite de Boulez? Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit? Qu'est-ce que vous avez perçu du caractère écrasant ou pas de la figure de Pierre Boulez?
Il y a d'abord eu une bataille entre les anciens et les modernes, et Boulez était évidemment le moderne qui menait bataille. Il avait un fort tempérament, il avait un génie de la parole, de l'analyse, de la mise en mots de ses choix. C'est rare, un compositeur qui a le don du concept et qui est capable d'expliquer ce qu'il fait. Il le fait mieux que à peu près tous les autres, et ça a beaucoup joué pour crédibiliser son art et ses ruptures et ses choix.
Le fait qu'il soit à la fois théoricien, chef d'orchestre, compositeur,
pédagogue et admirablement pédagogue vis-à-vis du public. Son public lui faisait confiance grâce à cette intelligibilité qu'il procurait à l'écoute des œuvres. Il a été assez étonnant pour ça. Et donc les anciens, les modernes, puis après évidemment les modernes gagnent. Et Boulez lui-même fait des choix qui sont en rupture avec ses choix antérieurs. Lui-même ne veut pas rester pris dans l'ornière de quelque chose qu'il a développé. Il ne veut pas tomber dans une balistique sonore. Donc il dit, il lance une sorte d'injonction paradoxale aux compositeurs et il leur dit, faites comme moi, tuez vos maîtres. Mais s'il leur dit ça, s'il tue le maître Boulez, ils lui obéissent encore. Donc comment faire? Et donc ensuite ça, c'est le paysage s'est progressivement détendu d'une certaine manière, puisque cette modernité s'est installée dans le paysage sonore français et dans les habitudes de composition. Et puis ensuite, des choix différents ont été faits. Des compositeurs qui avaient été méprisés auparavant, comme Sibelius, sont revenus au devant de la scène. Voilà, donc ça a été progressivement amalgamé. Et le temps fait toujours ce genre de travail. Il redistribue les valeurs d'une certaine manière. Il consacre ceux qui sont les innovateurs majeurs, mais il ne retient peut-être pas ceux qui sont des suivistes ou des clones. Et ensuite, il libère l'espace pour de recombinaisons différentes. À l'époque où j'ai enquêté sur l'ensemble intercontemporain et son public, il y avait deux modernités. Il y avait celle que Boulez incarnait et une autre peut-être plus séduisante qui était celle de Ligeti, qui remontait peut-être à Bartok, etc., qui engendrait autre chose. Et voilà, on avait déjà une double postulation. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert et très différent. Il y a beaucoup de choses qui coexistent, qui sont extraordinairement différentes. Les moyens aussi sont plus abondants, la circulation internationale. Il y a beaucoup de dimensions comme ça, qui changent un peu, de génération en génération, qui changent la donne, heureusement. Thank you.
Poupée est interprétée par Arline Auger, Néron par Della Jones, ce duo qui clôt le couronnement de Poupée de Claudio Monteverdi. Enfin, c'est signé, on croit, Claudio Monteverdi, mais il y a des doutes particulièrement sur cette fin d'œuvre. Mais qu'importe finalement, Pierre-Michel?
Il n'y a pas de doute sur la beauté absolue de ce duo. C'est le seul air ou duo, air en duo de l'œuvre. Et ce sont deux monstres qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors on est, mais c'est un magnifique ensemble de voix, ces deux voix qui se marient, qui ondulent l'une autour de l'autre. C'est vraiment magique. Je trouve ça magique. On devrait en faire un tube universel. Notre monde vivrait mieux si chaque matin on écoutait ça. Vraiment, je le pense. Et j'ai vu à l'Opéra de Paris une représentation de couronnement de Poppée. Alors rien à voir avec les instruments anciens d'aujourd'hui. C'était John Vickers et Gwyneth Jones. John Vickers et Gwyneth Jones sont tombés littéralement amoureux l'un de l'autre en chantant ça. Ils n'en pouvaient plus, ils l'ont bissé. Ils étaient littéralement portés par ça. C'était incroyable. J'étais dans la salle et moi-même, j'étais amoureux évidemment de Gwyneth Jones qui était magnifique. Et c'est un souvenir inoubliable aussi. C'était l'époque de l'ère Liberman, comme on l'a appelé. Mm-hmm. On découvrait tellement de choses. Les étudiants avaient des places à 10 francs à l'orchestre, vous vous rendez compte? Et moi, j'ai découvert des tas d'œuvres comme ça. Et celle-là aussi. Et quand j'ai entendu, j'ai un amour inconditionnel pour l'art et la lumière de la voix de Arline Auger. Depuis longtemps, et quand j'ai entendu j'ai beaucoup offert ce disque à des amis, parce qu'il n'y a rien de plus plaisant que d'offrir un disque auquel on tient à des amis. C'est comme un mana, on transmet quelque chose de soi à travers un cadeau à autrui.
On aurait beaucoup d'autres musiques à écouter ensemble, Pierre-Michel Menger, une petite frustration dans l'air en cette fin d'émission, mais il nous faut bien clôturer ces musiques et moi avec, tant qu'à être avec des voix féminines, avec Nina Simone.
Oui, My Way, Nina Simone. Il y a une vidéo que tout le monde doit aller voir. Il y a une intensité dans sa version de cette chanson célébrissime qui est extraordinaire. C'est l'anti-Sinatra d'une certaine manière. La voix de Sinatra est magnifique, mais celle de Nina Simone, elle y met une forme de rage presque qui est extrêmement émouvante à sa manière. Il y a un pianiste, un joueur de bongo et elle. Et au fur et à mesure que la chanson se déroule, l'intensité augmente et on sent sa vie qui passe à travers cette chanson. Ça, c'est sensationnel.
And now, the end is here. So I've got to face the final curtain. My friends, I'll make it clear. State my case, of which I'm certain. I've lived many lives that have been full. I've traveled each and every highway. But more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Oh, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. Then I spat it out. I stood forth until it mattered. I've loved and laughed and cried. I've had my, and now as tears subside, I find all in the stream of life so amusing to think I did all that.
Merci Pierre-Michel Menger d'être venu dans Musique et moi ce matin. Merci d'avoir partagé avec nous quelques-uns de vos coups de cœur, de vos découvertes. Pour tous les auditeurs et auditrices qui auraient envie de lire vos travaux, je recommande très fortement la lecture d'un de vos premiers ouvrages qui date du début des années 80 et qui s'intitule « Le paradoxe du musicien, le compositeur, le mélomane et l'État dans la société contemporaine » qui aborde beaucoup de questions que l'on se pose encore aujourd'hui sur la place du compositeur et de l'artiste dans notre société. Et puis aussi, je recommande la lecture et l'écoute de vos cours au Collège de France, notamment le cycle « Comment achever une œuvre, travail et processus de création » qui sont encore en ligne. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi. Amandine Grévoz à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, attachée de production, Maude Nourry. Passez un très bon dimanche sur France Musique. Et la semaine prochaine, 11h pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.